Alors, je voudrais simplement demander si quelqu'un peut me donner un programme. Je voudrais faire l'analyse de l'ancien programme. Merci. Bien, alors, comme vous avez vu, nous avons choisi comme séminaire, qui a commencé déjà depuis hier soir, le thème de langage et universalité, en nous appuyant sur le récit de la Bible, qui est connu sous le nom du récit de la tour de Babel et de la confusion des langues. En fait, il y a deux aspects de ce sujet que je voudrais formuler très rapidement. Nous essaierons de traiter ensemble à travers les différents exposés que nous aurons dans les soirées de conférences. C'est le fait de la multiplicité de l'origine des langues humaines, donc ce que nous pouvons appeler déjà en termes un peu plus familiers à notre vocabulaire, semble-t-il que l'universel du langage humain commence par être une diaspora des langues. Semble-t-il. Et d'autre part, le problème précisément de la difficulté de trouver une base existentielle concrète à travers une longue histoire de l'humanité à l'exigence, l'idéal, le rêve de l'unité humaine. Y a-t-il un lien entre ces deux problèmes? D'une part, la diaspora des langues, et d'autre part, ce que j'appellerais la diaspora de l'humanité. Cela peut paraître paradoxal que j'emploie ce terme de diaspora en l'indexant à l'universel humain, puisque en milieu juif en tout cas, et depuis la sortie de clandestinité de la tradition juive, assez récente, je dois dire, en Occident, eh bien, on attache la notion de diaspora à la société juive en particulier. Et par conséquent, il peut sembler paradoxal a priori de formuler une telle indication, la diaspora de l'humanité, la diaspora des nations, et donc la diaspora parallèle des langues, mais j'essaierai de montrer que c'est effectivement l'enseignement direct de la Bible qui a été finalement un peu occulté à travers le phénomène second de familiarité que nous avons avec la diaspora juive de façon plus particulière, mais nous verrons qu'il s'agit d'un phénomène second. Eh bien, nous avons eu déjà hier soir une première séance, et je suis vraiment très à l'aise pour vous redire, comme je vous ai dit hier soir, que nous étions déjà en plein dans le sujet, avec une communication de M. Alain Didier Veil sur la confusion des langues et le regard psychanalytique. Il y a eu une formulation au niveau du vocabulaire de la psychanalyse de ce problème, avec des implications extrêmement intéressantes et profondes qui nous ont été décrites. Ce soir, je parlerai, en me branchant très, très directement sur les récits bibliques, du problème de l'unité humaine, et de la raison pour laquelle la Bible tient à le lier au problème de la diaspora des langues. Je crois qu'il y a là quelque chose de très spécifique au discours biblique, c'est au fond la disparité des langages met en question ce que nous appelons l'universel humain, mais à regard juif, l'unité humaine. Demain, nous aurons une communication du Père Dupuis sur le même sujet, mais d'un point de vue de l'exégèse chrétienne. Et j'espère que nous aurons ensuite de quoi en fin de séance, demain soir, un dialogue fécond de recodage de ces deux lectures, la lecture hébraïque de la Bible et la lecture chrétienne à travers des traductions de la Bible qui sont finalement de sémantique et de catégories grecques et latines, en tout cas non hébraïques, d'essayer de comprendre la différence de perception de la visée de l'universel humain au-delà de la diaspora des langues, selon la tradition juive, je répète, dont la langue véhiculaire est celle de la Bible, l'hébreu, et selon la tradition chrétienne, qui passe à travers une autre vision, un autre visage culturel, celui que nous sommes habitués à nommer le visage gréco-romain ou gréco-latin. La soirée de clôture sera jeudi soir. Je précise que jeudi soir, la soirée de clôture commencera à 19h, étant donné des nécessités d'utilisation de salles. Et nous aurons une communication de M. Mechonik sur le problème de la traduction corollaire à la confusion des langues. Au fond, la question, comment se fait-il que la traduction soit possible? Existe-t-il peut-être, c'est une hypothèse que je formule à l'avance, une langue théorique médiane qui servirait de médiateur entre les deux langues occupées à être traduites? Et y a-t-il une place spécifique de l'hébreu dans ce problème? Je tenterai de relier en conclusion à l'ensemble du sujet, puisque cet enseignement de la Bible au sujet de l'importance du problème de la confusion des langues et de l'unité humaine, avec en filigrane la notion de diaspora universelle, eh bien, est le contenu d'une révélation prophétique, selon l'enseignement de la Bible, qui s'est fait en hébreu. Et au fond, l'envergure considérable du volume des traductions de la Bible à l'échelle universelle est en soi un témoignage qu'il y a eu un diagnostic de la part de l'universel humain que l'hébreu, comme véhicule d'un message théologique, philosophique, de vérité, culturelle, enfin d'un message qui a traversé l'histoire de l'humanité, a une place particulière, nous interrogerons à ce sujet. Il est d'ailleurs possible que de nos analyses de cette semaine surgisse pour l'année prochaine un colloque sur ce sujet qui poussera un peu plus loin sur les techniques de linguistique. Nous essaierons peut-être, je vous gagne pas d'avance, mais c'est un sujet qui nous a assez empoigné lorsque nous y avons réfléchi ces dernières semaines, j'y reviendrai, peut-être sur une formulation d'une autre voie que le structuralisme d'un côté ou le nominalisme de l'autre, s'appuyant sur des travaux contemporains et surtout ce que la sémantique hébraïque peut donner comme contribution à ce problème, encore une fois dans la recherche, la perspective de ce qui fait que les traductions sont possibles, quelle que soit la disparité des langues, et donc le problème de la langue unique ou de la langue une, comme nous verrons d'après le texte. En fait, je voulais dire en préambule que l'idée du présent colloque nous est venue il y a quelques semaines à l'occasion du rassemblement qu'il y a eu au Sénat pour la fondation de l'institution qui se nomme Judaïsme et Francophonie. Vous vous souvenez que, effectivement, le CJM, Congrès mondial de section française, a été chargé par le gouvernement français de mettre sur pied cette réflexion sur judaïsme et francophonie, qui est d'ailleurs parallèle à des réflexions analogues sur islam et francophonie, peut-être d'autres dimensions culturelles d'ailleurs aussi, et de voir dans quelle mesure il existe une culture, je ne dirais pas judéo-française, ça dépasse un peu la définition française dans le sens politique strict, mais en tout cas francophone. Et alors là, nous avons été menés à réfléchir au problème de la différence des langages et au problème de la langue unique. Voici comment je voudrais procéder ce soir, assez directement. Nous allons lire les premiers versets du récit de la Bible concernant la tour de Babel et la confusion des langues. Et à ce sujet, je poserai une première question. Ce récit vous est familier, mais nous allons quand même le lire pour l'avoir en mémoire. Est-ce que la Bible ici nous donne un jugement péjoratif sur le fait de langue unique, puisque semble-t-il la confusion des langues apparaît comme la punition du fait d'avoir eu une langue unique? Ou bien est-ce que, au contraire, le message n'est-il pas encore beaucoup plus profond, le fait que la disparité des langages serait quelque chose de positif? Nous essaierons d'aborder ce sujet de ces deux points de vue, et en indexant cette réflexion sur le problème de la pluralité des génies humains, à la manière dont la Bible en parle. Alors je vais prendre le texte au chapitre 11, je vais lire directement en hébreu et en français, et à l'occasion de chaque moment de lecture, indiquer les différents problèmes d'exégèse, soit rapidement lorsque ça ne concerne pas directement notre sujet, soit de façon un peu plus circonstanciée lorsque ça concerne notre sujet. Il s'agit donc du chapitre 11 de la Genèse. Voici comment commence ce récit. Vayi kol haaretz safa echad udvarim achadim. La traduction habituelle donne ceci: or, toute la terre était langue unique et parole singulière. C'est en général comment les traducteurs rendent ce verset. Je vais m'appuyer sur la traduction littérale du verset, sur l'enseignement du Talmud. Il y aurait dans cette première traduction un risque, un halo, si j'ose dire, de pléonasme. Parce que si la langue est une, unique, les paroles, les mots de la langue sont aussi spécifiques et les mêmes. Mais ce verset n'est pas simple à traduire. Alors je lis directement la source du Talmud qui va nous éclairer. Elle se trouve dans le Talmud de Jérusalem, traité de Megillah, premier chapitre, Halakha 9. Demande une minute que je prenne ma minute. À propos donc de ces deux phrases, Safa Echat Udvarim Achadim, de ces deux formules, langue unique et mot ou parole singulière, vous entendez en hébreu Echad, c'est l'adjectif féminin de Echad, Echad en féminin, Dvarim, les paroles, Ahadim, c'est de nouveau le même mot de Echad. Ça a l'air d'être pléonasme, comme j'ai dit tout à l'heure. Rami dit ceci, deux opinions ont été émises par Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. L'un dit qu'il parlait les 70 langues, She'ayu medavrim be'shivim lashon. Et l'autre dit qu'il parlait bilshon yechido shel olam. Il parlait la langue de l'unique du monde. Il y a déjà deux notions qui sont introduites par ce commentaire. Que signifie cette expression, ce dominant de lecture talmudique, les 70 langues, et que signifie la langue de l'unique du monde? Mais qu'il y a un déplacement de l'adjectif. Il ne s'agit pas seulement de la langue unique, de la langue une, mais de la langue de l'unique du monde. La langue que Dieu parle, en tout cas dans la cohérence du récit biblique, lorsqu'il se révèle à l'humanité. Et la citation se termine, Bilshon HaKodesh, par ce que nous traduisons habituellement par la langue sainte, mais la traduction n'est pas très exacte. Si ça signifiait la langue sainte, l'expression hébraïque serait Lashon HaKedosha, la langue sainte. Mais Lashon HaKodesh, en hébreu, ça signifie la langue qui traite de la sainteté, la langue du saint. Je signale que je ne traduis pas du tout par sacré, c'est une toute autre catégorie, mais le Kodesh, c'est la chose sainteté, la Shon HaKodesh, la langue de la chose sainteté, et non pas la langue sainte. Il me semble que l'expression langue sainte, comme d'ailleurs terre sainte, c'est plutôt une expression du vocabulaire chrétien. Alors qu'en hébreu, Lashon HaKodesh, Eretz HaKodesh, Ram Kadosh, une toute autre tonalité. C'est la terre dont l'essence est sainteté. Ce n'est pas un adjectif. C'est la terre où les conduites de sainteté ont été données. C'est la langue dont l'objet est la sainteté, et non pas une langue sainte. Je crois que là, il y a une inversion de catégorie qui doit être notée. Quoi qu'il en soit, le Talmud a jugé nécessaire de nous donner deux expressions. La langue de l'unique du monde, la langue de la sainteté. D'où notre problème. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de langue une, de langue unique, mais de la langue de l'unité. Et c'est en tant qu'elle est la langue de l'unité qu'elle sera la langue de la sainteté, dite la langue de la sainteté. Alors, petite parenthèse sur le recodage de ces deux adjectifs, de ces deux catégories. La notion de sainteté en hébreu renvoie à la notion de l'unité de toutes les valeurs à la fois. Et donc, nous avons un lien très étroit entre ces deux expressions. La langue de l'unique du monde et la langue de la sainteté. Alors, très rapidement, pour éclairer cette notion, chaque valeur, quel que soit le registre, est une valeur authentique, une valeur absolue, mais aucune d'entre elles n'enferme à elle seule ce que notre langue désigne par le terme de Kedusha ou Kodesh, la sainteté. Lorsqu'il y a simultanéité de toutes les valeurs à la fois, apparaît une valeur d'unité qui est la sainteté. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, vous me direz tout de suite. En tout cas, c'est très différent que de la synonymie à laquelle on est familier entre le saint et le sacré. Ce sont deux catégories radicalement différentes en hébreu, en tout cas dans l'hébreu de la Bible. La notion qui est traduite par le terme de sacré renvoie à une notion de la conscience magique et idolâtre pour le récit biblique, alors que la notion de sainteté renvoie à une notion d'ordre moral de l'unité de toutes les valeurs morales à la fois. Pour donner un exemple simple, nous sommes habitués en culture occidentale à parler des grands absolus, du vrai, du beau, du bon. Et bien lorsque une réalité est simultanément vraie, belle et bonne, elle sera dite sainte. S'il manque une des dimensions, la sainteté est occultée. Mais lorsqu'il y a dévoilement de l'unité des valeurs, apparaît la sainteté. Alors on voit donc un lien très étroit entre ces catégories en ce qui concerne l'identification d'Israël dont ce récit est le récit de l'histoire. J'ai dit la phrase à l'envers, mais vous avez compris. C'est que Israël sera appelé Am Kadosh parce qu'il est Le peuple voué à l'unité des valeurs. Sainteté et unité des valeurs se trouvent toujours liées dans le récit biblique. Et donc nous sommes renvoyés à un temps de l'histoire humaine, de l'histoire universelle, qui est antérieur à l'apparition de l'identité d'Israël dans les généalogies bibliques. C'est beaucoup plus tard que l'identité d'Israël va apparaître, nous verrons très rapidement. Et vous l'avez, nous désigne un temps d'universel réel. J'en arrive là au deuxième point de l'analyse. Dire que la terre entière était disposée d'une langue une, mais c'est la langue de l'unique du monde, tout en disposant des dialectes particuliers, c'est la traduction du Talmud. Je reprends encore cette précision linguistique, ce sera une dernière fois, vous vérifierez dans vos Bibles traduites, chacun suivant sa Bible familière, on a l'habitude de traduire sous forme de pléonasme, comme si le verset disait deux fois la même chose. Il y avait la même langue et les mêmes mots. Le Talmud dit non, il y avait deux réalités simultanées. Une langue, une, c'est la langue de l'unique, et les dialectes particuliers des différentes familles humaines. Ce qui va disparaître dans la catastrophe de Babel, c'est la langue une, et il ne restera que les dialectes particuliers, d'où la confusion des langues. Si nous lisons le récit autrement, nous allons d'ailleurs le lire comme il est écrit, alors il y a une sorte de récit magique, que tout le monde parlait la même langue, envoyait les mêmes mots, et puis subitement, ils sont mis à parler des langues différentes. C'est pas dans l'atmosphère biblique des magies de ce genre, si j'ose dire. Le texte en hébreu dit autre chose dès le début. L'humanité disposait et d'une langue une, et disons de patois particulier à chaque famille humaine. C'est très important, ça signifiait que l'universel était réel, exprimé par le fait qu'il y avait une langue une, la langue de l'unique, mais il n'y avait pas uniformité. Et chaque identité humaine avait son génie spécifique, et cela coexistait. C'est une situation idyllique, si j'ose dire, que l'humanité n'a plus connue depuis ce temps-là, dont le seul témoignage est ce récit, mais dont peut-être, et nous avons gardé, quelles que soient nos ethnies, quelles que soient nos traditions, quel que soit d'ailleurs nos langages, donc nos langages, une sorte d'exigence ancrée. Une sorte de nostalgie dans toute l'humanité d'un temps qui aurait été le temps de l'universel réel, de l'universel concret. Selon le récit biblique, ce temps a eu lieu. Or, la terre était langue unique et parole particulière. Ce qui me mène donc au deuxième point de l'analyse. Le fait que la Bible désigne ce que nous appelons l'universel au niveau du langage est très important dans la cohérence du vocabulaire biblique. Parce que dès le début du récit historique de l'histoire de l'humanité, la Bible indique le sujet humain en tant que sujet de parole. Je vais vous donner immédiatement la référence. Vous la prendrez au verset 7 du chapitre 2. L'homme est désigné comme personne vivante, Nefesh Chaya, et tous les commentaires, en premier la traduction de Onkelos, le Talmud d'Onkelos, indique que ça signifie doué de parole. Vous vérifierez aussi dans le commentaire de Rashi. Rashi ajoute une nuance de parole et de connaissance, de langage et de connaissance. Vous voyez que nous sommes sur le bord d'un problème important auquel j'ai brièvement fait allusion hier. C'est que lorsque le vocabulaire biblique veut désigner la spécificité de l'homme parmi l'ensemble des êtres vivants, la formule qui est employée, c'est Nefesh Chaya en hébreu, et dans le vocabulaire rabbinique, c'est Hayam Daber, c'est-à-dire le vivant parlant, le vivant doué de parole. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour essayer d'indiquer l'importance de ce choix de la tradition rabbinique pour la définition de la spécificité du sujet humain parmi tous les êtres vivants. Précisément parce que nous baignons dans une culture où on a tendance à le définir à notre niveau. C'est le vivant pensant, comme je l'ai indiqué hier. Nous sommes, tentés spontanément de définir la spécificité de l'homme par la capacité de penser. J'y reviendrai tout à l'heure pour essayer d'indiquer comment la tradition rabbinique récupère cette importance de la pensée humaine parmi toute manifestation de pensée plus ou moins rudimentaire que les savants de la modernité ont découvert dans d'autres espèces animales. Pas forcément seulement les dauphins, d'ailleurs. Mais, pour dire directement, le fait que la pensée humaine a une toute autre envergure que ce qu'on pourrait désignée comme pensée animale, vient de ce que d'autre part, l'homme est doué de parole. C'est une conséquence, un corollaire, et non pas la cause. Et donc nous habituer à ces inversions de catégories qui sont évidentes au niveau de la familiarité avec l'hébreu originel, avec l'hébreu de la Bible. Eh bien, cela est important pour des raisons d'application d'ordre moral assez considérables. C'est que nous savons maintenant, nous sommes plus à l'aise pour le savoir, que la pensée peut être impersonnelle et donc évacuer la responsabilité morale, alors que la parole renvoie à un sujet et donc fonde la personnalité morale. C'est un débat chez les savants contemporains, en particulier, il faut se brancher sur toutes les analyses du structuralisme qui précisément tendent à évacuer le sujet des structures du langage. Alors que pour la tradition biblique, c'est le langage qui est l'attestation qu'il y a quelqu'un qui parle, alors que la pensée peut aboutir à quelque chose qui pense, ou ça pense, ou il pense, mais de l'autre côté, c'est le je parle. Simplement, on pourra se relier à la formule traditionnelle. Lorsque la tradition dit que Dieu a créé le monde par sa parole, eh bien, cela implique fondamentalement que Dieu est quelqu'un et non pas une divinité impersonnelle. Il y a là une option de la tradition rabbinique qu'il faut le voir très clairement. Si j'ose dire, ou bien, comme disait d'ailleurs Lévi-Strauss dans son débat historique avec les marxistes, avec les humanistes en particulier, ou bien le sens est intérieur au sujet, alors c'est l'humanisme qui a raison, le sujet prime les structures, ou bien c'est le sujet qui est intérieur au sens, et alors c'est l'athéisme qui a raison. C'était un débat qui en son temps était un débat extrêmement important, et je me souviens de l'honnêteté avec laquelle Lévi-Strauss l'avait formulé dans son colloque avec Jean-Paul Sartre en ce temps-là. Donc c'est un sujet extrêmement important, parce que c'est le problème de la responsabilité morale qui est en jeu. Ou bien c'est de l'impersonnel qui fonctionne à travers ce que nous appelons le sujet humain, ou bien c'est vraiment le quelqu'un de chacun qui fonde la moralité de l'enseignement biblique. Et c'est le débat contemporain au niveau du problème de la découverte des structures du langage. Et donc le fait que la tradition rabbinique ait choisi cette formule, le vivant parlant, alors qu'elle connaît l'autre, le vivant pensant, montre qu'il y avait là une option bien spécifique. Je referme donc cette deuxième parenthèse. Bon, je continue le récit biblique. Verset 2. « Bayhi, benos am mekedem, il arriva, alors qu'ils ont voyagé en direction de l'Orient. » Vaim Seou Bikra, ils trouvèrent une vallée, ils rencontrèrent une vallée, si je dis, Bere Shinar, dans le pays de Shinar, je ne crois pas que ce soit la Chine, Vaïche Boucham, ils s'installèrent là-bas. La première civilisation dont ce texte parle, c'est une civilisation orientale. Kedem, c'est le côté de l'Orient. Vaïomrou, et ils dirent, Ish et Reu, chacun à son ami, à son prochain, l'un à l'autre, Havan il ben alevenim, nous allons fabriquer des briques, benisrefa l'isrefa, nous les ferons passer au four, nous les ferons passer au feu, il y a l'indication d'un changement de niveau de l'industrie. C'est-à-dire, on s'est commencé à construire des habitations de briques. Utehi lahem, patehi lahem, alevena lehaven, et la brique leur tint lieu de pierre, mais un changement de civilisation, et l'argile leur servit je crois qu'il faut traduire de la façon inversée, le ciment leur servit d'argile. Voyons-nous, et ils disent, c'est mon verset 4, nous allons nous construire une ville, ou migdal, et une tour, verosho vachamaï, et sa tête sera dans les cieux, et nous nous ferons à nous un nom. De peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Cette racine, de peur que nous soyons dispersés, c'est la racine du terme de diaspora en hébreu, et tzoutzot. Diaspora en grec est un sens qui nous est très familier, c'est une dispersion, et où d'une unité originelle apparaissent une atomisation d'individus qui sont en situation de dispersion par rapport à une unité perdue. C'est ça, diaspora. Alors qu'en hébreu, les tfutzot indiquent qu'il y a une métropole et les diasporas restent reliés à la métropole. C'est un problème pour la sociologie de l'histoire du peuple juif extrêmement important. C'est un problème qui est renouvelé dans le temps contemporain, pendant 2000 ans. Eh bien, on ne pouvait pas parler de diaspora dans le sens hébreu, des tfutzot, puisque la métropole n'existait pas. Mais de notre temps, le problème est de savoir si les diasporas se considèrent comme des diasporas d'une métropole. Devinez l'envergure de ce problème, c'est encore en débat, bien entendu. Mais on continue à employer ces termes comme si l'absence était suffisamment éclairée du point de vue sociologique et politique. Mais je reviens à cette racine. Il y a une sorte de crainte de la dispersion. Quel est le problème qui va être posé? Est-ce que la multiplicité est un enrichissement positif ou au contraire, c'est un échec négatif? Ce qui est en jeu, en compétition, si vous voulez, c'est quel est le bien pour l'humanité? Une unité, et alors ce serait l'universel, ou au contraire une multiplicité? Où est l'enrichissement de l'identité humaine? C'est ce qui va être en question dans cette lecture de ce texte. Nous sommes habitués à une lecture qui privilégierait l'unité au détriment de la diaspora universelle qui va en résulter et qui est considérée comme une sorte de châtiment, comme une sorte de tare, comme une sorte de péché originel à l'échelle collective. C'est assez parallèle d'ailleurs. À l'échelle individuelle, le récit biblique semble commencer par une tare de l'origine, que le vocabulaire chrétien nomme le péché originel. À l'échelle des collectivités, semble-t-il, il y a aussi un péché originel, entre guillemets, qui serait l'épisode de la tour de Babel. Alors, vous voyez que c'est intentionnellement que je mets en évidence des lignes de lecture qui nous dépaysent un peu de la familiarité avec les traductions habituelles, où il semblerait que c'était un bien qu'il y ait unité et que le résultat, la diasporisation, si j'ose dire, a été négatif. Vayered Hashem lirot et haïr, et Dieu descendit pour juger, regardez, ça signifie juger ici, la ville, Beit HaMikdash, et la tour, Asher Banu Bene Adam, que les fils de l'homme avaient construit. Et déjà, ce profil un peu, c'est l'indication d'une civilisation qui devient industrielle et à la limite unitaire, totalitaire. Vayomer, Hashem et Dieu dit, Hen, Ram Echad Vesafa Achat Lekulam. Voici qu'il y a un peuple unique et une langue unique à tous. Vese Hahilam Ahasot. Et c'est cela qui leur a permis de commencer à agir. Ve'ata, et maintenant, Loye Batser Mehem Kolacher Yazimul Ahasot. On ne pourra plus les empêcher de tous les projets qu'ils auront d'agir. Verset 7. Haba Nirda Venavla Sham Sfata. Descendons pour confusionner littéralement leur langue. Vous voyez quelle est la traduction? La traduction est littérale, c'est ce que signifie chaque mot littéralement en hébreu. Alors tout se passe comme si, ici le discours de Dieu consiste à dire ce fait qu'il y ait un seul peuple et une langue unique semble être très péjoratif. C'est cela qui leur a permis de construire la ville et la tour. Mais la construction de la ville et de la tour est montrée comme très négative. Le fait qu'on ait remplacé la pierre par la brique, et ça fait construire des fours. J'ajoute aucune application. Okay. Ben Israfa, l'Israfa. Énormément de Midrashim met en évidence le caractère catastrophique de l'allure du récit auquel on n'est pas du tout habitué. Je reprends en tout cas le verset 7. Hava Nerda, Venabla Sham Sfatam. Descendons et. Mettons en confusion leur langue, et là, il y a un pluriel étonnant. Ici, à partir du verset 7, Dieu est au pluriel. Et il y a déjà là un thème très important auquel le premier commentaire du Talmud que j'ai cité faisait allusion en parlant des 70 langues. Je reviendrai immédiatement. Asher Loishmeu, Ish, c'est pas très. de telle sorte qu'ils ne comprennent plus chacun la langue de. Alken, verset 9, c'est pourquoi que Rachema Babel, son nom fut nommé Babel, Kisham Bala Hashem Sfat Kola Aretz, car c'est là que Dieu a mis en confusion la langue de toute la terre, ou Misham et Fitzam Hashem, et c'est à partir de là que Dieu les a dispersés, tout autres, Alpene Kola Aretz, sur la face de toute la terre. Nous avons là 9 versets, et c'est le récit de la tour de Babel. Alors je résume, ensuite je vais revenir sur 2 ou 3 points d'exégèse qui poseront un peu plus profondément notre sujet. Je résume, c'est que la problématique qui apparaît là, c'est de se demander si l'intention du récit biblique est de nous indiquer que le fait qu'il y ait langue unique était un bien et que on ne sait pas à la suite de quoi il y a punition, il en résulte une diaspora des langues, ou bien si c'est l'inverse, si c'est la multiplicité qui est au contraire positive, et que l'unité est dans quel sens apparaît comme négative. Je vous dirais qu'il y a des courants de commentaires dans les deux sens. Sans vous citer trop d'indications d'érudition, nous sommes familiers à un premier courant, et j'en dirai donc que quelques mots. Il y a eu révolte contre le principe d'unité, la langue unique a disparu, il n'est resté que les langues particulières, alors on ne s'est plus compris, d'où la confusion des langues. Je donnerai un exemple très très simple. La situation dans un pays comme la France. Il y a une langue unique, le français, et chaque province est censée avoir son patois, la seule langue. Alors imaginons que le français disparaisse, parce qu'on se serait révolté contre le jacobinisme de la langue française, si j'ose dire, ne resterait que les patois provinciaux, à la longue, on ne se comprendrait plus. Et c'est un problème d'ailleurs qui risque de se poser à une autre échelle lorsque l'Europe aura fait son unité. Il y aura un problème linguistique, probablement. On arrivera à trouver une solution, mais c'est une solution qui aura été préparée par des siècles de civilisation européenne, alors que c'est subitement que cette langue unique disparaît, eh bien il y a confusion subite. J'essaie d'indiquer que la première lecture avait une apparence magique et j'essaie d'indiquer la deuxième, de telle sorte qu'on n'ait pas cette apparence magique. Ce n'est pas subitement que la langue unique a disparu. C'est l'implication du refus de l'unité qui fait que finalement, même si on emploie des mêmes mots, la signification unique disparaît. Et donc, il est bien évident que nous sommes très familiers à ce premier chemin de lecture. Je vais indiquer le second. C'est qu'il y a un risque d'une idolâtrie, d'une humanité une, d'une idolâtrisation d'une humanité une qui s'instaurerait comme une entité monolithique et en tant que telle s'instaurerait comme rivale de l'unité divine elle-même. Et c'est plutôt dans ce sens que le second courant des commentaires auquel j'ai fait allusion briser ce risque, ce danger de totalitarisme unitaire, si j'ose dire, et de telle sorte que de mettre en évidence la richesse que représente la multiplicité des génies humains. Or, selon la tradition midrashique, apparaît là une réalité que je voudrais analyser assez rapidement, c'est ce que l'on appelle les princes célestes des nations. En hébreu, les sarim, les génies de chaque nation, qui président à l'histoire de chaque nation, qui sont une sorte de délégation de la providence de l'unique propre, délégué pour l'histoire propre de chaque peuple, de chaque nation. Et on comprend qu'il puisse y avoir toute une série de hiérarchies à ce niveau, cela va jusqu'aux familles, aux tribus, aux familles, et en fin de compte jusqu'à l'individu. C'est tout le problème de l'angéologie. C'est un problème extrêmement difficile, c'est une des branches de la théologie qui est peut-être la moins connue de la culture moderne. Je ne vais pas pénétrer dans ce sujet, je donnerai simplement quelques indications en disant que pour les religions traditionnelles, c'était un thème extrêmement familier. Pour les traditions, pour les sociétés traditionnelles, cette idée que chaque société a sa typologie propre, son génie propre, et qu'il y a un ange tutélaire, mettez ça entre guillemets, un génie céleste, qui est le représentant au tribunal d'en haut de ce que représente la société en question dans l'histoire d'en bas, est une idée extrêmement familière. Alors, indépendamment des anges, les anges représentent les volontés du Créateur, unique. Indépendamment des anges qui président aux différentes fonctions du fonctionnement du monde, ce que nous appelons, nous les modernes, les lois de la nature, aux différentes hiérarchies de généralité des lois régissant les phénomènes, il y avait d'autre part ces anges qu'on appelle les princes célestes, en hébreu les sarim, qui président à l'histoire des peuples. Des peuples, et donc des tribus, des familles, jusque l'histoire individuelle. C'est une sorte d'élégation de hiérarchie de la Providence une pour les différentes manières d'être la créature, les peuples, les nations. Alors, selon la tradition, les 70 sarim, qui ensemble forment le tribunal céleste, apparaissent au moment de la dispersion de la tour de Babel. Tout se passe comme si, jusque à ce stade-là, il y a monothéisme strict à tous les niveaux, parce que la créature vivant, l'unité de la créature, était reliée directement à l'unité du Créateur. Mais à partir du moment où il y a un éclatement de la diaspora universelle, alors, je parle sous forme d'image, mais c'est plus qu'une image, alors apparaissent des réalités au niveau de la transcendance qui président aux destinées de chaque nation. On revient donc à la citation du Talmud par laquelle j'ai commencé cette analyse, c'est que le verset 1 du chapitre nous disait que l'humanité disposait simultanément et de la langue de l'unique du monde et parlait les 70 langages. Chaque fois que la Bible va indiquer la notion de multiplicité au niveau de la créature, c'est ce nombre de 70 qu'elle emploie. Il y a 70 nations, il y a 70 langues de base. On pourrait dire que toutes les ethnies, tous les peuples, toutes les sociétés que nous connaissons dans le monde contemporain sont un nombre infini de combinaisons à l'infini de ces 70 nations de base. La Torah raconte donc l'histoire d'une humanité une jusqu'au temps de la révolte de la tour de Babel, avec encore une fois ces deux harmoniques, l'un positif, le fait que l'humanité est une est extrêmement positif, il y a un universel concret dans la civilisation humaine. Mais d'autre part, l'harmonique négative, il y a un risque de monolithisme, de, employons des termes qui nous sont familiers, de totalitarisme, et nous savons ce qui arrive des sociétés unitaires. Ceci est brisé. Je crois que la réponse à la question que j'ai posée pourrait être trouvée dans la formulation suivante. C'est que c'était un bien que cette multiplicité humaine. Elle s'est déployée dans la catastrophe. Elle s'est déployée dans la perte de l'unité profonde. Mais s'il y avait eu, sans doute, continuité de ces deux éléments, et l'unité universelle, et la multiplicité des richesses, des différents génies, des familles humaines, selon l'expression biblique, alors nous serions peut-être dans ce temps idyllique. J'en arrive donc à une troisième remarque qui me semble importante, surtout en milieu juif. C'est qu'en milieu juif, nous sommes très habitués à l'idée de la notion de diaspora. Comme si la manière naturelle d'être du peuple juif, c'est d'être en diaspora. Nous voyons bien que d'après ce récit, il faut corriger cette pseudo-évidence. Selon le récit biblique, c'est la manière d'être catastrophique de l'humanité dès l'origine, après Babel, qui est l'état de diaspora. Et la diaspora d'Israël, qui sera racontée dans le récit biblique, est une diaspora seconde, qui vient se greffer sur la diaspora humaine à des fins providentielles messianiques que le récit biblique formule. Ce n'est pas notre sujet. Mais d'autant plus qu'il n'y a pas Israël parmi comme un des 70 peuples qui résultent de cette diaspora de Babel. Vous lirez attentivement le chapitre 10, le chapitre 11, où sont énumérées ces différentes identités humaines, et l'on s'aperçoit effectivement qu'il n'y en a pas une qui soit Israël. C'est plus tard que d'une certaine famille, de ces 70 familles humaines, Abraham surgira et retrouvera la perspective de l'identité hébraïque dans cette perspective parallèle que j'ai indiquée dans la première analyse, du projet de sainteté et du projet d'unité. Et donc la société fondée par Abraham, qui sera en fin de compte nommée Israël, ne fait pas partie des 70 nations de base. C'est un sujet pour lui-même, c'est un sujet extrêmement important. L'histoire permanente d'Israël par rapport à l'universel humain semble nous renvoyer cette donnée biblique en la caricaturant. Il y aurait l'humanité d'un côté, Israël de l'autre. Ça pourrait être formulé de mille manières. Je crois que vous percevez un peu l'importance de cette indication. C'est-à-dire, selon le récit biblique, eh bien, il y a les 70 nations de base, et puis une nation, 71e, va surgir très difficultueusement, si j'ose dire, il faut suivre l'histoire des engendrements à partir d'Abraham, jusqu'à que cette nation soit engendrée, et qui a pour objet, finalement, a pour projet, cette unité perdue. Elle l'a en tout cas, un témoignage d'idéal, à travers l'histoire de l'universel depuis ce moment. Mais je voudrais revenir à cet essentiel de mise au point, c'est que nous avons vécu sur une fausse évidence pendant 2000 ans, semble-t-il, cette évidence que l'être de diaspora est connaturel à l'identité juive, alors que selon le récit biblique, l'être de diaspora est connaturel à l'identité humaine, et que l'être de diaspora est anormal en soi, et donc anormal aussi pour Israël, et qui ne peut être que provisoire. Voici donc que nous arrivons au fond de notre sujet. Quelle est la raison pour laquelle le récit biblique formule ce problème de l'unité humaine au niveau langage? Et je voudrais terminer, avant de vous passer la parole, sur une indication qui nous est donnée dans le Deutéronome, à propos d'un verset qui est très célèbre, qui vous est certainement familier, qui est le verset 6 du chapitre 4, et qui est le verset d'affirmation de l'unité divine. Alors, je vous lis le verset, et je vous lis immédiatement le commentaire de Rashi, à travers lequel nous allons retrouver notre sujet. Le lien entre le fait de pouvoir retrouver la langue une et le fait de pouvoir retrouver l'unité humaine, universelle, réelle. Voici ce que dit le verset. Shema Israël, je vous ai annoncé que vous serez familier, écoute Israël, Hachem Elokeinu, celui qui est notre Dieu, Hachem Echad, est un Dieu un. Très vrai, la préalable. On a tendance à entendre ce terme de Echad, que j'ai traduit par un, comme s'il était yachid, c'est-à-dire unique. Mais il y a une différence entre la notion d'unicité et la notion d'unité, surtout lorsqu'elle désigne Dieu. Il y a un monothéisme de l'unicité et un monothéisme de l'unité qui ne sont pas les mêmes. Je vais donner quelques indications très rapides là-dessus. Le monothéisme de l'unicité, c'est dire qu'il y a un seul Dieu, que Dieu est unique. En hébreu, ça se dit yachid, unique. Alors que le monothéisme de l'unité, c'est l'affirmation que ce Dieu qui est unique, qui est seul à être Dieu, est un en lui-même. Alors que la première notion, la notion de l'unicité, peut, à force d'un effort de réflexion, être intégrée au niveau d'une pensée rationnelle, la notion d'unité dépasse infiniment les évidences de la raison. C'est un sujet important, je ne vais pas trop le résumer, donc j'en dirai quelques phrases et vous me direz immédiatement si c'est suffisamment clair. Et on peut assez facilement, ça a pris des siècles dans l'histoire de l'humanité, arriver à l'idée de l'évidence que s'il y a Dieu, il y en a un seul. Mais l'affirmation que ce Dieu qui est seul à être Dieu est un en lui-même est une affirmation qui est de l'ordre de la foi. Et c'est pourquoi, même si cela peut paraître un peu difficile de le formuler en français, on est obligé de dire qu'il faut distinguer le niveau d'un monothéisme de l'unicité, et nous partageons cette évidence avec tous les sémites, qui sont des monothéistes de l'unicité, en particulier l'islam, et d'autre part l'affirmation du monothéisme de l'unité. Et là nous sommes en débat avec la tradition chrétienne. Et il suffit de dire le terme de Trinité, qui est un des dogmes de la pensée chrétienne, pour que vous voyez l'importance de ce débat. Alors je donne un exemple. C'est que nous affirmons de Dieu, du Dieu unique, des attributs contradictoires. Et l'affirmation de l'unité du Dieu unique consiste à affirmer l'unité d'attributs contradictoires. Alors, il reste contradictoire pour la pensée, mais pour la foi, cette contradiction est dépassée. Mais c'est une attitude de la foi. Dire que Dieu est simultanément bon et juste, c'est dire qu'il est un, mais c'est dire une contradiction rationnelle. Cette notion de l'unité dépasse la raison. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Bon. Pardon? Oui? Oui, je l'ai senti. Alors, je reprends l'analyse. Je crois qu'on me dit si elle est suffisamment claire. C'est la difficulté des conférenciers, surtout lorsqu'ils traduisent d'une autre langue, c'est que leur paraissent évidentes ce qu'ils devraient arriver à rendre évident. Alors, il y a une difficulté. C'est clair ce que je dis là. Eh bien, je reprends la définition de l'unicité. C'est rare?